la convention a enfin, enfin voté le procès de la putain couronnée.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le deuxième épisode de notre série consacrée cette semaine au procès de Marie-Antoinette qui, en octobre 1793, conduira à sa condamnation à mort et à son exécution. De quoi Marie-Antoinette était-elle coupable? C'est la question que nous nous posons cette semaine avec l'historien Emmanuel de Varesquiel. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment Marie-Antoinette, depuis le début de la Révolution, a concentré sur elle une impopularité qui s'est transformée en haine au point qu'on réclame sa tête. En août 1792, la famille royale a été arrêtée et vit depuis à la prison du Temple.
Le roi et sa famille seront conduits au Temple avec tout le respect dû au malheur. Ils seront gardés par 20 hommes, pris dans chaque section de la ville de Paris. Les rues qu'ils traverseront seront bordées de soldats de la Révolution. Et leur plus grand supplice sera d'entendre crier « Vive la nation !» Et la liberté !
Depuis le mois d'août 1792, lorsque le peuple de Paris avait pris d'assaut les Tuileries, Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants, qui ont échappé de peu à la mort, sont incarcérés à la prison du Temple à Paris. Ils sont l'objet d'une surveillance de tous les instants, car les révolutionnaires redoutent qu'un complot royaliste ne soit monté pour les enlever. Les vexations et les brimades sont constantes, mais les repas sont corrects et le plus important pour Marie-Antoinette, la famille royale vit ensemble. Depuis septembre, alors que les défaites militaires se multiplient, que les Prussiens assiègent Verdun et que la capitale est menacée d'être prise par l'ennemi, par vengeance, des centaines de suspects royalistes sont massacrés dans les prisons parisiennes. Un nouvel événement en particulier vient heurter la reine personnellement. La mort d'une rare violence de son amie la princesse de Lamballe, égorgée, le corps mutilé, déchiqueté, la tête brandie sur une pique et promenée sous les fenêtres du temple de telle manière que la reine puisse embrasser le visage ensanglanté de son amie, ce qui n'arrivera pas. La rumeur accusait la princesse de Lamballe d'être la maîtresse de la reine. Comment ne pas voir dans cette mort par décapitation l'annonce de celle un an plus tard de Marie-Antoinette ?
France Inter. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Mais enfin, nos généraux à peine tirent un plan que le duc de Brunswick est mis au courant et que nos soldats seront massacrés par les Autrichiens. Si les Autrichiens, les Prussiens viennent faire le siège de Paris, je ne serai pas le dernier à demander qu'on lui coupe le cou.
Le 20 septembre 1792, après une succession de défaites françaises, les armées autrichiennes et prussiennes sont repoussées à Valmy. Une victoire inespérée qui, dans l'euphorie, dès le lendemain, amène les députés de l'Assemblée nationale à proclamer l'abolition de la monarchie en France. Dans la foulée, le 22 septembre, est prononcé l'avènement de la Première République. Une page d'histoire se tourne. Il n'y a donc plus en France ni roi, ni reine, ni dauphin, mais la famille Capet qui est enfermée au Temple. Le 10 décembre commence le procès de Louis XVI, qui est condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793. Ce matin-là, en entendant tonner le canon qui annonce l'exécution, Marie-Antoinette, comme le veut la tradition monarchique, dans un geste qui paraît bien anachronique, fait la révérence devant son fils, le nouveau roi Louis XVII. En mars 1793, alors que débute l'insurrection vendéenne, Robespierre annonce la création d'un tribunal révolutionnaire dans le but d'éliminer toute opposition. Désormais, quel va être le sort de Marie-Antoinette et de ses enfants ? Au printemps, étrangement, la veuve Capet semble avoir été oubliée dans sa prison du Temple. C'est durant l'été 1793 que les événements se précipitent. Emmanuel de Varesquiel, quelle est la situation politique et militaire de la France à l'été 1793 ?
Alors, pourquoi est-elle oubliée ? La Convention nationale, jusqu'au 29 mai, 2 juin 1793, est dominée par les Girondins, qui ne tiennent pas au renouvellement d'un procès qui serait le procès de la femme après celui du mari. Les Girondins ont massivement voté pour la détention jusqu'à la paix et non pour la mort. Et le 29 mai survient un événement qui est celui de l'élimination des Girondins, qui vont d'ailleurs monter à la guillotine quelques semaines après Marie-Antoinette, à la fin de l'année 1793, et la domination de la Convention par la Montagne, qui elle-même est, je dirais, non pas dominée, mais en conflit de pouvoir avec les sans-culottes parisiens, des 48 sections parisiennes, avec la Commune de Paris, qui demande au nom, je dirais, de la consolation du peuple et de la vengeance contre la contre-révolution, qui demande la mise en accusation de Marie-Antoinette et sa comparution devant le tribunal révolutionnaire, qui, comme vous l'avez très bien dit, est créé le 10 mars 1793. Vous vous souvenez du fameux mot de Danton, soyons terribles pour éviter au peuple de l'être. Et donc, cette montée en puissance se fait pour des raisons qui sont des raisons de politique intérieure au sein de cette toute jeune République française, mal consolidée, qui est en but à la fois à une guerre civile, avec la montée en puissance de ce qu'on appelle la Vendée, avec les révoltes girondines de Lyon, de Marseille, et en même temps qui est fragilisée par une deuxième intervention, une deuxième coalition anti-française, conduite par la Prusse, l'Autriche et l'Angleterre, et bientôt l'Espagne, et qui pour la deuxième fois envahit le territoire de la République. Valenciennes et Condé sont assiégées et prises. Dunkerque est soumis à un siège par une flotte anglaise, Toulon est assiégée et prise par une flotte anglo-espagnole, et donc la République est dans une situation de très très grande fragilité. Et comme souvent, autour de cette notion à demi fantasmée du complot, on cherche un bouc émissaire, et on a ce bouc émissaire, il est tout trouvé, puisqu'il est à la Tour du Temple, c'est cette ex-reine, cette ancienne reine de France, détestée depuis des années, et qui est à la fois, du point de vue de la Révolution, coupable de trahison extérieure et de complot intérieur. Mais autour de ce thème du comité autrichien qu'elle aurait réuni aux Tuileries à Saint-Cloud pour travailler contre la Révolution, puis contre la République.
Mais est-ce qu'elle représente un véritable danger ou est-ce qu'elle doit servir de gage face au mécontentement
elle
du peuple ?
Elle ne représente aucun danger, d'autant plus qu'elle est très rapidement abandonnée par l'Autriche elle-même. Elle est également en but, je dirais, à une double adversité ou à une double haine, à la fois celle de la République, mais en même temps celle des partisans d'une contre-révolution menée par ses frères, le comte de Provence et le comte d'Artois, qui la détestent. Elle est comme ça, entre le fer et l'enclume, soumise à cette double opposition. Elle est absolument seule.
Et dans quel état physique et mental est-elle à ce moment-là ? Et en plus, on lui enlève son fils le 3
alors,
juillet.
Jusqu'à sa séparation du dauphin, entre la mort du roi et les premiers jours de juillet, où on la sépare du dauphin, elle est dans une situation d'un ultime refuge au sein de sa famille, avec sa belle-sœur, Madame Elisabeth, sa fille et son fils. Le peintre Koucharski, qui la représente en tenue de deuil, en robe noire, probablement en mars ou en avril 1793, la représente comme une femme beaucoup plus âgée que l'âge qu'elle a. Elle a 37 ans. On dit que ses cheveux auraient blanchi en une nuit après la fuite à Varennes. Le mot qui revient le plus souvent dans ses correspondances jusqu'au 10 août, parce qu'après elle ne peut plus écrire, est le mot malheur, et le deuxième mot, c'est le mot peine. Mais en même temps, avec cette énergie qui est là et qu'on va retrouver dans son procès, qui est de faire face à l'adversité. C'est dans le malheur, dit-elle dans une de ses lettres, que l'on sent vraiment ce que l'on est. Elle a cette énergie, peut-être que son mari n'avait pas jusqu'à son procès et son exécution en janvier 1793.
Et pourquoi est-ce qu'on la sépare de son fils ?
On la sépare de son fils parce qu'on est absolument persuadé qu'elle éduque son fils, non pas comme le petit Capet, tel qu'il est désigné par la Révolution, mais comme le roi de France. Vous connaissez la formule rituelle « Le mort saisit le vif, le roi est mort, vif le roi », et donc on considère, à la fois dans la tradition républicaine et dans la tradition monarchique, que ce contact, cette intimité qui existe entre la mère et le fils est dangereux et ne correspond absolument pas à la situation qui est celle de la proclamation de la République le 21 septembre 1792.
Et dans quel état physique est Marie-Antoinette ? Elle est malade à ce moment-là ?
Elle est affaiblie, elle est quasiment myope.
Elle a des saignements aussi.
Et elle a des saignements et des hémorragies qui s'expliquent peut-être, ce sont en tout cas les explications qui ont été données par la suite par des médecins, à un cancer de l'utérus. Et on sait qu'elle a des pertes de sang. On dira que dans la voiture qui l'a conduit du temple à la conciergerie, le 2 août 1793, elle aurait perdu pas mal de sang. De même, au moment de monter sur la charrette qui la conduira à l'échafaud. Et donc, elle est certainement dans une situation physique de très grand affaiblissement.
Merci Emmanuel de Varesquiel. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Marie-Antoinette va être séparée de sa famille et transférée à la prison de la Conciergerie en attendant son procès.